Chapitre 18
La Normandie. La Normandie est coupée en deux par une grande rue, la Seine, qui, en guise de maison, est bordée de villages et de villes, de châteaux modernes et de châteaux en ruine, comme celui de Robert le Diable. La rivière, lente et verte, s'attarde, muse, semble s'en aller à regret vers l'océan, parfois même revient en arrière avec le mascaret. Et en même temps, sur la route, elle s'enfle, grossit, s'élargit, jusqu'à comprendre 13 kilomètres d'eau entre ses deux rives. À sa droite, où Rouen et le Havre dominent, un vaste plateau s'élève, qui finit en falaise au bord de la mer. À sa gauche, où Caen est la ville maîtresse, s'ouvre le bassin de l'Eure, son affluent. Puis de petites vallées indépendantes, l'Orne, la Dive, etc., qui viennent mourir en dunes et plages de sable sur la côte du Calvados, et qui, à mesure qu'elles se rapprochent de l'ouest, deviennent plus étroites, plus maigres et plus sauvages. Pour connaître ce pays, il faut descendre la Seine au moment où le printemps veut les prés de verdure et les pommiers de blanc et de rose. Il faut aussi descendre le cours des siècles, où il a eu des destinées si glorieuses et si diverses. Au Moyen-Âge, à peine les hommes du Nord qui lui ont donné son nom ont-ils été absorbés et francisés par la population qu'ils ont subjuguée, que vainqueurs et vaincus, fondus ensemble, se répandent par le monde. Les voyez-vous qui s'établissent à Naples, en Sicile, jusqu'en Grèce et dans le Levant. Mais leur conquête la plus solide et la plus éclatante, c'est la grande île voisine, c'est l'Angleterre. Ils y portent leur langue, leur organisation, leurs mœurs. De nobles familles y conservent de nos jours avec orgueil, dans leurs armes, dans leur nom même, le souvenir des envahisseurs. La broderie de Bayeux, 70 mètres d'histoire sur 50 centimètres de large, raconte encore l'audacieuse et prodigieuse aventure. L'abbaye aux hommes et l'abbaye aux dames, dans la ville de Caen, monuments expiatoires que Guillaume le Bâtard et sa femme Mathilde font bâtir pour racheter le péché de s'être mariés, quoique cousins, rappelle que ces conquérants sont des fils soumis et dévots de l'Église. En effet, puissants monastères et superbes églises y dressent vers le ciel leurs voûtes romanes ou ogivales. Saint-Vendry, Jumièges surtout, l'abbaye souveraine, séduisent ou étonnent encore par leurs ruines charmantes ou colossales. Rouen est une ville sonnante où les clochers se touchent et se répondent. Saint-Ouen, coiffé de la couronne ducale, défie la cathédrale et sa tour dentelée, construite avec l'argent dont les bourgeois achetaient la permission de manger du beurre en carême. Saint-Patrice, avec ses vitraux, avoisine Saint-Maclou avec ses portes de bois sculpté, digne d'orner, sinon l'entrée, du moins l'antichambre du paradis. Il n'est pas étonnant qu'elle ait gardé du temps jadis une quantité de maisons à pignons sur rue et à encorbellement. Capitale des ducs de Normandie, qui sont rois d'Angleterre, mais vassaux et par là même ennemis des rois de France, elle est alors la rivale de Paris. Elle lui dispute la navigation de la Seine, et elle ne permet pas à la compagnie parisienne des marchands de l'eau de dépasser le pont de Mantes-la-Jolie. Elle est une des grandes villes drapantes qui figurent aux foires de Flandre et de Champagne. Elle verra la passion de Jeanne d'Arc. Et son palais de justice, si beau qu'il soit, n'effacera pas la mémoire d'une des plus criantes iniquités du passé. L'autre tête de la Normandie, la ville de Caen, sera en ce temps-là une ville savante, dans laquelle les juristes fleurissent comme il convient en un pays où les procès ne manquent guère, où les gens sont madrés, retors et se cramponnent à leurs droits. Mais l'esprit de chicane n'empêche point la gaieté, et c'est un ouvrier foulon de vire, Olivier Basselin, qui naturalisera parmi les Français le vaudeville. Vient la Renaissance. La Normandie, séparée à jamais du monde britannique, se rattache étroitement à la France. Les imparfaits en « haïté », des mots comme « monnaie »,« paraître », »,« français », même trahissent l'action de la prononciation normande sur le parler des environs de Paris. Les cardinaux d'Amboise, dont le tombeau pare la cathédrale de Rouen, sont les agents du rapprochement qui s'opère. François Ier s'intéresse si bien au Havre qu'il veut l'appeler Franciscopolis. Henri IV, qui gagne son royaume aux batailles d'Arc et d'Ivry, son sage conseiller Sully, qui naît au château de Rosny, trouve là sympathie et appui. C'est aux eaux de Forges-les-Bains que Louis XIII ira demander un fils. À l'aurore du XVIIe siècle, la Normandie pourrait bien être la province dominante. Elle fournit coup sur coup une quantité d'hommes remarquables. Si des portes, le poète de cour, et Régnier, le gai satirique, qui sait, comme il dit, sucrer sa moutarde, sont seulement de proches voisins, puisqu'ils sont originaires de Chartres, c'est en plein pays normand qu'apparaissent Malherbe, le grammairien poète, Rotrou, le précurseur de nos grands tragiques, Corneille, l'héroïque, avec son frère Thomas et leur subtil neveu, Fontenelle, Saint-Amand, le chantre réaliste du fromage et de la crevaille, Huet, l'érudit évêque d'Avranches, d'autres encore. Comme il arrive presque toujours, la sève créatrice pousse des jets vigoureux dans les domaines les plus divers. Alençon s'enrichit et s'illustre par ses dentelles. Des peintres comme Poussin et Jouvenet naissent aux Andelys et à Rouen. Rancé fonde dans la farouche solitude des bois le monastère de la Trappe. Eudes crée l'ordre des Eudistes. Et pendant que les catholiques y font preuve ainsi d'une vitalité féconde, du petit troupeau protestant sort Duquesne, l'amiral, qui aura le crève-cœur d'aller achever en Suisse sa carrière victorieuse. Car la Normandie, et ses villes manufacturières en particulier, souffrent cruellement de la vague d'intolérance religieuse qui passe alors sur la France comme un raz-de-marée dévastateur. Une décadence s'ensuit, et pour que la prospérité renaisse, il ne faut pas moins que l'introduction, au XVIIIe siècle, d'une nouvelle industrie. Le roi Coton, laissant la laine triompher à Elbeuf, à Louviers, la détrône à Rouen même et dans les alentours. Rouennerie signifiera bientôt cotonnade. Les machines surviennent à leur tour, importées d'Angleterre, à la grande colère des fileurs et tisseurs à la main. Dans les villes surgissent de vastes fabriques, pendant que le travail dispersé s'étend dans les villages. Et le pays tout entier connaît la fiévreuse activité de l'industrialisme, sa production intense, mais aussi ses tares et ses tristesses, les crises qui jettent sur le pavé des milliers de chômeurs quand le coton vient à manquer, comme ce fut le cas au temps du blocus continental ou de la guerre de sécession en Amérique, les grèves et les révoltes ouvrières comme en 1848, la dégénérescence de la population pauvre pour qui l'alcool devient un périlleux supplément au cidre. Mais, par un contraste connu qui caractérise notre civilisation contemporaine, la richesse croît en même temps que la misère, et de nouveau la Normandie atteint au XIXe siècle une ère de prospérité. Elle est fertile en hommes, savants qui sont le géomètre, Laplace, le géologue, Élie de Beaumont, l'astronome, le verrier, le mathématicien-philosophe, Tannery, musiciens qui sont les gloires de l'opéra comique, Boieldieu et Aubert, peintres qui s'appellent Géricault, Chapelain, Boudin, hommes politiques comme Armand Carrel, précurseur du régime républicain, comme Dupont de l'Eure, vénérable président du gouvernement provisoire de 1848, comme Félix Faure, moins vénérable président de notre Troisième République. Elle présente surtout une imposante brigade d'écrivains, les uns doux, tendres, presque féminins, comme ces deux Havrais, Bernardin de Saint-Pierre et Casimir de Lavigne. Comme Chêne Dolé, qui fut à Lamartine ce que l'étoile du berger est au clair de lune. D'autres, robustes et virils jusqu'à l'âpreté, comme Barbé d'Orvilly, le conteur passionné de la chouannerie et des amours romantiques. Louis Bouilhet, le chantre des monstres préhistoriques, et surtout Flaubert, le disséqueur impitoyable des atrocités carthaginoises et de la vulgarité bourgeoise. Maupassant, le vigoureux et classique prince des nouvellistes. Mirbeau, le nerveux flagelleur des mœurs contemporaines. Illustrée ainsi par ses enfants, la Normandie s'est de plus en plus développée en tous sens. Elle s'est entourée d'une ceinture de plages qui ont été, du temps de Louis-Philippe et du Second Empire, le rendez-vous de toutes les élégances, Dieppe, Étretat, Trouville, ou qui aujourd'hui, de Veules à Fécamp, de Cabourg à Langrune, offrent aux familles de paisibles bains de mer. Rouen est devenu le second port de France, après Marseille. Le Havre, agrandi, embelli, prend, depuis 1905 surtout, un essor rapide. Cherbourg n'est plus seulement une station de vaisseaux de guerre et de sous-marins, c'est l'escale où s'arrêtent les paquebots étrangers partant pour l'Amérique. C'est que la région a deux précieux débouchés dont les facultés d'absorption sont presque insatiables. Paris, d'une part, et l'Angleterre, de l'autre. Elle n'a pas seulement le transit des bois, des charbons, des fruits, des vins qui remontent ou descendent la Seine. Elle est le point d'où partent œufs et volailles, beurre d'Isigny, fromage de Camembert, de Neuchâtel, de Pont-l'Évêque, chevaux et bœufs élevés dans de gras pâturages, tissus de laine et de coton, épingles, aiguilles, agrafes fabriqués à l'aigle, objets de cuivre et de zinc, etc. Et ces années dernières, voici qu'on a découvert dans son sous-sol des trésors mystérieux, des mines de fer, de houille et même d'or. Voici que déjà entrepreneurs et capitalistes de France et d'Allemagne s'abattent sur les terrains à surprise du Calvados. Encore une source de plus d'où la richesse va couler sur ce pays riche.